Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 avril. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, un cinquième train de sanctions contre Moscou doit être annoncé aujourd'hui par les États-Unis après le choc des horreurs en Ukraine. Nous serons en Russie, Anaïs, où la population apprend à vivre après les restrictions. On voit ça après les autres titres.
Mobilisation inédite en France des salariés d'Amazon pour des hausses de salaire. Après l'alerte des chocolats Kinder, nous serons dans le laboratoire de l'Institut Pasteur qui analyse tous les cas de salmonelle. Et puis, exposition émouvante et intime des dessins des enfants d'Isieux montrés pour la première fois au public.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50, les atrocités commises contre les civils ukrainiens, dont des indices très clairs de crimes de guerre, disait lundi à notre micro Emmanuel Macron. La terreur comme stratégie militaire délibérée de l'armée russe, on en parlera tout à l'heure avec le spécialiste de défense et de stratégie militaire, Pierre Servant, au micro d'Inter. Et puis à 8h20, c'est la suite de notre série de 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, c'est le candidat du parti Reconquête, Éric Zemmour, avec lequel vous pourrez largement dialoguer. Vous avez la parole, 01 45 24 7000.
France Inter. Un cran de plus dépassé dans l'horreur de la guerre en Ukraine, un cran de plus dans les sanctions occidentales contre la Russie. Les États-Unis vont annoncer aujourd'hui de nouvelles sanctions pour interdire tout nouvel investissement en Russie, viser aussi les institutions financières et les entreprises publiques. Washington affirme que ces sanctions vont causer des dommages de sites économiques immédiats et aigus. Qu'en est-il pour l'instant des effets sur la population ? Reportage de notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Au quotidien, on ne peut pas dire que la vie des Russes soit bouleversée. Après les premières ruées vers les distributeurs d'argent et les rayons de sucre ou de serviettes hygiéniques, on ne signale plus beaucoup de pénuries. La plupart des services fonctionnent normalement et même certaines sociétés données par tante sont finalement toujours là. C'est le cas d'un certain nombre de McDonald's dont les franchisés russes ont refusé de fermer comme la maison mère américaine le leur demandait pourtant. Mais tout le monde ici a bien conscience de la précarité de la situation, comme le raconte Yevgenia, une mère de famille de la région de Samara, à l'est de Moscou.
Actuellement, je réalise que nous allons manquer de produits de bonne qualité, de nourriture de bonne qualité, plus certains articles que j'ai l'habitude d'acheter, comme mes produits de beauté qui viennent de France, aussi les vêtements pour enfants. Notre pays n'est pas réputé pour produire des vêtements de qualité. Et ici, les revendeurs ferment. Je réalise que plus ça avance et pire ça va être.
D'après certaines études, la Russie pourrait perdre 2 millions d'emplois avant la fin de cette année. Le chômage passerait à presque 8% dans un contexte d'inflation qui se fait déjà sentir sur certains produits importés. D'autres effets pourraient apparaître prochainement avec, par exemple, des avions cloués au sol par manque de pièces détachées. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
De son côté, la Commission européenne propose de ne plus acheter de charbon russe. Il représente 45% des importations de l'Union. Les 27 en discutent aujourd'hui. Les États-Unis ont également annoncé dans la nuit 100 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine. On le comprend, le ton se durcit avec la liste des exactions relevées sur le terrain. Civils tués à Boutcha, torture à Motijine, habitants bombardés et encore sous les décombres de Borodienka. C'est ce que constatent depuis ce week-end nos envoyés spéciaux sur place. Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot ont recueilli aussi le témoignage de Loubov. Elle habite Kolonchina, au nord-ouest de Boutcha.
Loubov relève son pantalon, elle baisse ses chaussettes et laisse apparaître la quinzaine d'éclats de grenades sur ses mollets.
Il y a quelque chose à l'intérieur et là aussi dans le pied, ça me fait très mal.
Des blessures après l'explosion d'une grenade à fragmentation de fabrication soviétique dont Loubov a gardé la goupille.
On a retrouvé ce truc-là avec des morceaux de métal éparpillés.
La preuve d'un possible crime de guerre dont elle et son mari ont été victimes. C'était le 17 mars, ils étaient cachés au sous-sol de leur maison.
Un char est entré dans la rue et a commencé à tirer sur les maisons. Il s'est arrêté près de chez nous. Des soldats sont entrés dans la cour et ont commencé à fouiller. On s'est réfugiés dans la cave. L'un d'entre eux s'est approché et il a crié « Vous, les Ukrainiens, sortez, on ne va pas vous tuer ». Puis il a jeté un objet qui a explosé. Mon mari a été grièvement blessé parce qu'il m'a protégé. Ce Poutine, qu'il crève, il a tué tellement d'enfants. Pour moi, c'est l'horreur.
Avec un mari toujours hospitalisé, des enfants et des petits-enfants partis à l'ouest de l'Ukraine, Lubov est désormais seule avec son chien. Elle est restée à Kolonchina et vit chez une amie le temps de soigner ses blessures.
Thibault Lefèvre avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. L'ONU estime crédible l'emploi par les Russes à au moins 24 reprises d'armes à sous-munitions dans des zones peuplées. Une enquête est également en cours sur l'utilisation par l'Ukraine de telles armes. Beaucoup d'interrogations aussi sur les 600 000 personnes mentionnées hier par l'ambassadeur russe à l'ONU, évacuées vers la Russie, parmi elles plus de 119 000 enfants. Elles ne sont pas parties sous la contrainte ou enlevées, mais elles sont parties volontairement, dit-il. Autre conflit où des atrocités ont été commises et désormais documentées, la guerre au Tigré. Dans le rapport d'Amnesty International de Human Rights Watch, ce matin, on lit que forces de sécurité et milices se sont livrées à un nettoyage ethnique, à ce qui pourrait être des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, exécutions, viols, campagne implacable de nettoyage ethnique sans que le gouvernement éthiopien n'intervienne. On en reparle dans le journal de 7h30.
Il est 7h06 à 4 jours du scrutin présidentiel, un duel à distance ce soir.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen interrogés tour à tour sur TF1, ce que les sondages placent en tête du premier tour. Troisième homme, Jean-Luc Mélenchon rêve lui de se hisser au second tour. Il était en meeting à Lille et en hologramme dans 11 villes hier. Anne Hidalgo l'a renvoyé dos à dos avec Emmanuel Macron.
Il n'y a plus d'options du côté de chez Macron pour cette famille de pensée, ces Françaises et Français généreux qui ont envie de justice sociale. Et quand je vois de l'autre côté un Jean-Luc Mélenchon qui nous explique que c'est à lui aujourd'hui qu'il reviendrait de recevoir le vote des gens de gauche, je dis c'est pas sérieux, c'est une impasse totale. Regardez les positions internationales sur l'Ukraine, c'est lucide et c'est sérieux de dire que quand quelqu'un qui veut gouverner, qui veut présider la France, vous explique que l'agresseur c'est l'OTAN et c'est pas Vladimir Poutine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui rompt complètement avec l'histoire de la France à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Et donc quelqu'un qui veut présider le pays et qui a ce type de comportement, pour moi, est quelqu'un qui est une impasse. D'un côté, vous savez, vous avez quelqu'un qui n'est plus une option, c'est Emmanuel Macron, et de l'autre côté, vous avez une impasse.
La socialiste Anne Hidalgo hier soir sur France 2 dans Élysée 2022. Les autres candidats sont encore sur le terrain aujourd'hui. Yannick Jadot à Bouxwiller en Alsace pour parler gel et agriculture. Meeting de campagne ce soir pour Nicolas Dupont-Aignan à Paris. Le candidat Debout la France hier dans un refuge de la SPA propose de mettre en place une taxe à l'importation sur les animaux pour aider financièrement les refuges. Nicolas Dupont-Aignan réclame par ailleurs toujours une commission d'enquête sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid. Et voilà aussi un des sujets de campagne, les salaires qui stagnent et l'inflation qui enfle, et une première chez Amazon, des débrayages depuis le début de la semaine, et ça va recommencer pour mettre la pression sur les négociations salariales de la semaine prochaine. 3% d'augmentation proposée par la direction, l'intersyndicale en veut 5. Mobilisation inédite de ces salariés, souligne Alain Jo de la CGT Amazon.
On a dénombré nous 1500 salariés grévistes du jamais vu chez Amazon, quoi. Beaucoup de salariés sont jeunes, voire très jeunes. Des jeunes parents, quoi, voilà. Donc, ils sont pas habitués et pour la plupart, c'est leur première grève. C'est des gens qui ont des enfants qui sont jeunes et, comme ils nous expliquent, ils ont du mal à boucler la fin du mois, quoi, à donner à manger aux enfants. Et c'est les gens qui sont venus nous voir pour nous dire, ça va plus, quoi. On fasse quelque chose parce que là, ça va plus du tout. On demande 5% parce que déjà l'inflation elle est déjà à 4,5%. Donc c'est pas demander la lune que demander 5% à une entreprise comme Amazon. C'est des gens qui ont des petits salaires qui veulent un juste retour de leur travail, quoi.
Alain Jo, CGT Amazon avec Laurent Kramer. Ses salariés touchent 1350 euros net avec 3 ans d'ancienneté. Quant aux 300 salariés de la fonderie du Poitou Alu dans la Vienne, leur unique client, Renault, leur a annoncé que l'activité cessait au 30 juin. Pas de repreneur pour l'instant.
Il est 7h09, pardon, et ça n'est pas encore la loi des séries, mais...
Mais après l'Escherichia coli, la salmonelle, voilà que la Listeria s'invite dans nos supermarchés. Le groupe Lactalis lance un rappel de fromage de la marque Grain d'orge. Cela concerne les coulommiers et brie 1 kg fabriqués à la fromagerie de Livaro. Une faible présence de listeria a été relevée sur un seul fromage. Quant à la salmonelle dans les chocolats Kinder, comment ces cas ont-ils été repérés alors qu'on recense en France tous les ans plus de 10 000 cas? Hélène Chevalier est allée enquêter dans le laboratoire de l'Institut Pasteur, centre de référence nationale et mondiale de la salmonelle qui analyse l'intégralité des cas.
Sur une des paillasses du laboratoire, une centaine de prélèvements issus de patients atteints récemment de salmonellose attendent le retour du séquençage. Une fois réalisé, le responsable du centre de référence, le docteur François-Xavier Veil, peut voir sur son ordinateur si les salmonelles ont le même génome.
Et là, vous voyez, toutes ces souches qui appartiennent à la même branche, voyez, là, ce sont des souches épidémiques. Et c'est ces outils qui nous permettent ce que l'on appelle de clusteriser, c'est-à-dire de regrouper ensemble des bactéries identiques. Et dès qu'on a deux patients avec une même bactérie, il y a peut-être quelque chose de commun, un aliment qui peut être contaminé sur le marché.
Pour le moment, le laboratoire a décelé 21 cas contaminés avec la même bactérie. Le premier a été analysé fin janvier, mais ce n'est qu'en le comparant avec le génome d'autres prélèvements liés à la consommation de produits Kinder en Grande-Bretagne que l'équipe a fait le rapprochement.
Il n'y avait pas assez de cas pour déclencher une enquête, parce qu'on reçoit soit quand même 10 000 souches bactériennes par an. Et il y a des moments dans l'année où il y en a 150 par jour. Donc 20 cas sur un mois et demi, il n'y a que le séquençage qui permet véritablement de les relier entre eux. C'est des épidémies qui passaient totalement inaperçues il y a quelques années.
Le travail d'enquête est ensuite réalisé par les épidémiologistes de Santé publique France. Ce sont eux qui contactent les malades pour savoir quels aliments ils ont consommés les jours précédant leur contamination. Sur les 21 cas, 15 ont déjà confirmé avoir mangé des produits Kinder.
Elon Musk et son service d'accès à Internet par satellite devra repasser Starlink et privé de ses fréquences hertziennes en France. Recours gagnant hier d'associations environnementales devant le Conseil d'État. Ils furent le visage d'un des épisodes les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale. Les 44 enfants d'Izieux raflés et déportés le 6 avril 1944. Une exposition exceptionnelle ravive leur mémoire. Aujourd'hui, celle des dessins et des lettres de ces enfants juifs séparés de leur famille fuyant les nazis. Les œuvres de centaines d'enfants ayant été accueillis à Izieux entre 43 et 44 sont exposés pour la première fois, Mathilde Imberti, grâce à un formidable travail de conservation.
Ils sont restés dans l'ombre près d'un demi-siècle, à l'abri chez Sabine Zlatin, peintre et ancienne directrice de la colonie.
Ces dessins, les petits mots, les lettres, elle va les récupérer après la rafle. Et tout cela, elle le met dans des dossiers, des cartons fermés. Elle ne les ouvrira pas.
Stéphanie Boissard, responsable de la documentation à la maison d'Izieux.
Elle ouvrira enfin ses cartons pour préparer le nouveau musée mémorial et faire don en 93 à la Bibliothèque nationale de France de ces pièces.
Leurs couleurs sont flamboyantes et intenses, telles que les petites mains les avaient fait naître. Des témoignages d'insouciance d'enfants juifs séparés de leurs parents, fuyant les persécutions et déplacés à Izieux dans l'Ain, dans la zone d'occupation italienne, préservée jusqu'à la fin 43 et la capitulation des Italiens.
105 enfants sont passés par la maison. Il en restait malheureusement 44 encore le 6 avril 44. Tout le travail des éducateurs ici, c'était de faire en sorte qu'ils oublient le plus possible cette situation très douloureuse. Ce sont des dessins qui sont hors du temps, je dirais. Des cow-boys et des indiens, des chevaliers, beaucoup de choses, sauf la guerre.
44 enfants entre 5 et 17 ans et leurs éducateurs raflés sur ordre de Klaus Barbie, condamné à Lyon en 1987 à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Izieux, Mathilde Imberti, France Inter.
L'exposition est à voir jusqu'au 6 juillet puis à partir de janvier prochain au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, il ne croit plus personne. Parole à des Français qui se revendiquent complotistes.